Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
C'est doux, hein.
À peine quelques mots, et pourtant, une chouette, son envol, ont permis ce matin-là de briser le silence et l'enfermement de Marie-Louise, Hélène, Robert et les autres.
RTL.
Vous n'avez pas peur du tout, madame?
Non, pas du tout. J'aime tous les animaux.
C'est dans une maison de retraite comme celle-ci que j'ai découvert, il y a 5 ans, comment les animaux pouvaient aider les hommes.
Jusqu'à 22h.
Cela s'appelle la médiation animale. Une discipline qui se pratique aussi dans les hôpitaux et les prisons.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est en voyant mon vieux chien quasiment sourd et aveugle me reconnaître après plusieurs mois d'absence.
Votre chien, vous, Thomas?
Oui, qui est venu l'idée de raconter des histoires extraordinaires d'animaux dans la curiosité. Bonsoir Hélène Gâteau.
Bonsoir Thomas, bonsoir Sidonie.
Ça va bien?
Bonsoir Hélène.
On vient de vous entendre, vous êtes vétérinaire chroniqueuse sur RTL dans Week-end Matin avec Vincent Perrault. Comment un chien peut-il reconnaître son maître après plusieurs mois de séparation, à part mon odeur corporelle très forte?
Mais c'est ce que j'allais dire, il est aveugle et sourd, mais il a toujours son odorat peut-être, oui. Votre chien. Et en fait, les animaux comme nous-mêmes, on marche, notre mémoire, il existe une mémoire qu'on appelle la mémoire sensorielle, qui ensuite active les réseaux de l'émotion et de la mémoire. Et en l'occurrence, eh bien, votre chien, quand il vous a senti de nouveau, ça a activé quelque chose qu'il avait en mémoire et il s'est souvenu de toutes les émotions qu'il peut avoir avec vous et de l'attachement surtout qu'il a avec vous.
Hier soir, dans la curiosité, d'ailleurs vous pouvez podcaster cette émission, on recevait Bernard Werber, le romancier, qui a écrit un roman sur les chats. Et il disait, nous on observe nos animaux de compagnie, mais on ne se doute pas à quel point eux nous observent en permanence, c'est vrai?
Moi, c'est vraiment ce que je dis toujours, c'est qu'on a l'impression de les connaître, on pense qu'ils nous connaissent, mais on sous-estime vraiment tout ce qu'ils peuvent savoir de nous. Ils passent énormément de temps à nous regarder, à nous observer, et finalement, si le chien s'est fait une place à côté de notre canapé, devant le feu de cheminée, c'est parce qu'il a appris à déchiffrer notre langage corporel, à déchiffrer nos expressions du visage, et à s'adapter à l'être humain. Finalement, l'amitié homme-chien, c'est une des plus belles communions entre deux espèces complètement différentes qui peut exister aujourd'hui sur notre planète, finalement. Un canidé, un humain, qui vivent ensemble, j'allais dire main dans la main, mais c'est plutôt patte dans la main, et qui s'accompagnent comme ça depuis des millénaires. Moi, je trouve que c'est une formidable histoire, celle du chien et de l'homme.
Hélène Gâteau, vous partagez votre expérience de vétérinaire dans un livre des hommes et des animaux publié aux éditions Carnet Nord, et notamment, vous racontez l'histoire de ce Jack Russell que vous aviez à l'école vétérinaire de Nantes. Vous nous rappelez déjà à quoi ressemble ce chien?
Ah, le Jack Russell, on en voit partout, aussi bien à la campagne qu'en ville. C'est le petit chien. On va dire que c'est un ratier, en fait. C'était avant les ratiers qu'on avait à la campagne.
Ça veut dire quoi, ratier?
Ratier, c'était les petits chiens qu'on avait, qui pouvaient aller chasser aussi les rats dans les fermes.
Petit poil court.
Petit poil court, blanc, et souvent avec des taches au niveau de la gueule ou qui entourent l'œil, qui sont sur les oreilles, des chiens très vif et très intelligent.
Alors vous, Hélène Gâteau, quel souvenir vous gardez de ce Jack Russell?
Alors, ce Jack Russell s'appelait Roots, déjà c'est son petit nom, et je l'ai eu effectivement l'année de mes 20 ans, à l'école vétérinaire de Nantes, et j'ai envie de dire que c'était mon alter ego canin. Lui aussi, il a passé énormément de temps à m'observer, à me suivre dans cette période de 20 à 30 ans, qui est peut-être une période vraiment charnière dans la vie de toute jeune femme, et il m'a accompagnée, c'était mon plus fidèle compagnon. Il a accompagné mes tristesses, mes succès, mes échecs.
Et... Vous dites qu'il sentait bon?
Oui, il sentait bon.
Il sentait la noisette, c'est ça?
Exactement. J'ai ce souvenir et aujourd'hui, je me souviens toujours de son odeur, en fait. Et c'était, après, c'est peut-être quand on a un enfant, on trouve que c'est le plus beau, qu'ils sont le plus bon ou je ne sais quoi. Bah, mon chien, c'était la même chose. C'était le plus intelligent, le plus beau, il sentait bon.
Et vous rêvez de lui encore, Hélène Gâteau?
Alors oui,
ben,
je pense que je le maintiens vivant, je le maintiens auprès de moi et, chaque semaine, j'ai envie de dire qu'il revient me rendre visite au cours de mes rêves. Mais vous savez, je pense qu'on peut avoir une relation avec un chien extrêmement forte. Il peut vraiment se passer des choses extraordinaires, autant qu'avec un être humain, même si un chien reste un chien et n'est pas un être humain. Et on les fait vivre, on continue à les faire vivre dans notre souvenir et dans nos rêves, sachant que leur vie est généralement beaucoup plus courte que la nôtre, 12-15 ans, donc c'est court. Et c'est bien qu'ils continuent à nous accompagner d'une façon ou d'une autre.
Hélène Gâteau, les animaux nous font du bien, ce n'est pas seulement une phrase comme ça, une formule que je suis en train de prononcer. Ils sont effectivement de plus en plus utilisés dans certaines thérapies. Lesquelles?
Alors, On se rend compte, grâce à des études scientifiques aujourd'hui, qu'avoir un animal à ses côtés, ça va avoir des effets apaisants, de diminution de la tension, de la pression artérielle. Ça a également un effet valorisant, gratifiant par rapport à l'être humain.
Parce qu'on a une responsabilité et qu'on doit s'occuper d'un petit animal.
Tout à fait, ouais. Exactement. Et puis, vous savez, quand vous rentrez d'une journée de boulot, que vous êtes fait engueuler par votre patron, que vous rentrez chez vous, que votre femme ou votre mari vous fait la tête aussi, finalement, il y en a qu'un qui vient et puis qui est content de vous voir, et c'est votre animal. Donc
mais ça, c'est dans
bien.
Notre quotidien, pardon, je vous interromps, mais il oui. y a aussi pour des pathologies plus lourdes,
bien
on
sûr.
Utilise des animaux et notamment des chiens.
Voilà, et c'est ce qu'on appelle la zoothérapie ou la médiation animale qui se développe beaucoup en France. On utilise aussi bien des chiens, mais aussi parfois d'autres animaux, des nacs, des nouveaux animaux de compagnie, des chevaux, des ânes. Et
des lamas dans votre
des
livre,
lamas,
vous racontez
oui, oui, des lamas.
D'une femme qui élève des lamas.
Oui. Pour les mettre en contact avec des personnes en difficulté qui souffrent de troubles du développement ou bien de troubles psychologiques et qui, grâce à la présence des lamas, vont se retrouver face à un animal qui ne les juge pas, qui va se comporter de façon extrêmement instinctive avec eux. Et finalement, toutes les difficultés de la vie quotidienne peuvent être mises de côté quand on se retrouve face à un animal.
Et vous racontez une scène particulièrement émouvante, il faut la partager avec les auditeurs d'RTL, où il y a un malade qui fait face à un lama. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, il s'appelle Paul, ce monsieur. Il souffre d'une pathologie au sein de laquelle il ne ressent aucun sentiment, en fait. Voilà, il est dénué de tout sentiment suite à un choc émotionnel. Et je l'ai vu face à ce lama. Il venait de faire une sorte de parcours d'agility comme on peut avoir pour les chiens. Il venait de le faire avec un lama. Et on s'occupait d'une autre personne qui faisait le même parcours d'agility. D'un seul coup, je le vois sur le côté. Il était face au lama. Et il se regardait. Vous savez, un lama, finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que ça a la même stature qu'un être humain. Et finalement, le regard du lama se plonge dans le regard de l'être humain. Et il était face à lui et il se passait quelque chose. Il avait la main qui était posée sur le lama. Ça a duré quelques minutes et ensuite le lama a posé sa tête sur l'épaule de ce monsieur qui s'appelle Paul. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Il ressent forcément quelque chose. Et en l'occurrence, le lama devait ressentir peut-être la difficulté de Paul à ressentir des émotions, à communiquer. Et c'est lui-même qui est venu dans sa bulle. On a tous une bulle de confort, une bulle intime qu'on ne veut pas laisser, dans laquelle on ne laisse personne pénétrer. Et bien là, le lama est venu voir Paul et c'était vraiment magique.
Et comment il a réagi, Paul ? Qu'est-ce qu'il a éprouvé ? Qu'est-ce que ça a changé
Écoutez,
chez lui ?
Eh bien, j'ai rien vu sur son visage parce que effectivement, il n'exprime rien physiquement. Mais je me suis dit que c'était pas possible. Il devait forcément ressentir quelque chose. Et vu, en tout cas, la paix, la sérénité qui se dégageait de cet homme-là, je me suis dit que oui, il se passait quelque chose. Et forcément, il allait rentrer ensuite dans son institut. Il allait se sentir mieux et il allait se souvenir de ce moment-là. Et c'est en ça que les animaux peuvent nous aider aujourd'hui.
Autre rencontre surprenante, celle de Chambord. C'est un cerf et c'est aussi une star de cinéma. Les animaux sur grand écran, c'est ce que l'on découvrira tout à l'heure, juste après les infos.
Vous pouvez nous poser d'ailleurs des questions ou avoir des réactions déjà sur un autre sujet de la curiosité qui vient tout à l'heure. Le permafrost, ces sols gelés où hibernent des virus depuis plus d'un million d'années. Certains ont été identifiés, d'autres sont de vrais ennemis et dangers pour l'homme aujourd'hui.
On est bien entre curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Des loups, mais aussi des chiens, des oiseaux de toutes sortes, des singes, une biche, des cochons, une autruche, environ 250 animaux, souvent récupérés auprès de zoos, cohabitent dans cette ferme de la région parisienne bien connue des cinéastes et des artistes.
La curiosité est un vilain défaut.
En près de 40 ans, Pierre a tourné environ 3000 films et publicités. Il est aujourd'hui l'un des deux grands dresseurs animaliers de France.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Notre invitée est vétérinaire, animatrice sur France 3, chroniqueuse sur RTL, Hélène Gâteau, que vous écoutez dans Week-end Matin avec Vincent Perrault. Hélène, vous nous racontez vos meilleurs souvenirs et vous nous faites aussi découvrir des animaux extraordinaires que vous avez rencontrés, par exemple des stars de cinéma comme Chambord, qui appartient au dresseur, au dompteur Pierre Cadéac. Qui est Chambord ?
Alors Chambord, c'est un cerf, donc un mâle avec une ramure magnifique et qui a joué dans des publicités, dans des films avec Pierre Cadéac, donc ce grand dresseur d'animaux pour le cinéma.
Alors pourquoi son van ? est un élément important.
Ah, le van. Le van,
pour en le fait, dressage.
Chambord, c'est un animal sauvage. Hein. Ouais. Les cervidés sont des animaux sauvages et pas des animaux domestiqués. Et quand on veut travailler avec un animal sauvage comme ça, c'est pas du tout les mêmes techniques de dressage qu'avec des animaux domestiques. Et en l'occurrence, il faut leur apporter du confort. Et pour Chambord, son confort, c'est le van. Parce que pour lui, c'est un endroit dans lequel il se sent bien, il se sent en sécurité.
C'est sa maison.
C'est sa maison. Pierre le nourrit souvent dans son van. Et c'est un élément donc extrêmement sécurisant.
C'est lui qui l'a décoré.
C'est sa chambre, son petit camping-car avec lequel il part un petit peu partout. Et il y a du foin, il y a de la paille, il y a tout ce qu'il faut. Et quand Pierre l'emmène donc sur des tournages de films, il y a toujours son van qui est l'élément donc qui va permettre de rassurer cet animal qui ne comprend pas forcément pourquoi il est sur un plateau de cinéma.
Alors le jour où vous rencontrez Chambord, Hélène Gâteau, il part répéter une scène. Laquelle ?
Oui, ah, formidable. On est allé répéter non loin de là où habite Pierre Cadéac, du côté de Fontainebleau. Une scène dans laquelle Chambord devait se sentir poursuivi et menacé et devait courir et ensuite se jeter dans un étang et traverser cet étang pour rejoindre l'autre rive. Et sur l'autre rive, qu'avait mis donc Pierre ? Eh bien, le fameux van. Comme ça, pour répéter la scène, eh bien, il avait mis Chambord d'un côté, qui était dans un enclos. Il est arrivé par derrière, il lui a un petit peu fait peur avec un quad. Et donc Chambord, sa seule issue, c'était de nager. Un cerf, ça nage, hein, il n'y a aucun problème. Et il a ainsi rejoint l'autre rive sur laquelle il y avait son van. Et tranquillement, il est ressorti de l'eau, il est allé chercher ses pommes qui étaient dans son petit van.
Mais il n'a pas souffert, il n'a pas eu du stress.
Alors, il y a eu une petite part
de peur avec un
quad. Il y a une petite part de stress, ouais. Ça c'est, je ne peux pas vous dire le contraire. Maintenant, il s'en est très bien remis, il n'y a aucun souci. On n'est pas sur quelque chose de traumatisant pour l'animal parce qu'après, il va retrouver du confort ensuite derrière. Donc, dans le dressage d'animaux sauvages, c'est vrai que parfois on peut avoir des petites notions de stress comme ça, mais ça reste extrêmement. On respecte bien évidemment le bien-être de l'animal.
Alors, vous racontez cette histoire, Hélène Gâteau, dans votre livre Des hommes et des animaux qui est publié aux éditions Carnet Nord. Il en a beaucoup comme ça, des animaux sauvages, Pierre Cadéac ?
Oui, il en a entre 200 et 250 animaux sur son terrain. Il a de tout. Il a aussi bien des rapaces que des loups, qu'un ours, mais aussi des chiens, des chats. Et il n'y a pas longtemps, je l'avais au téléphone, il m'appelle et il me dit « Bonjour Hélène, c'est Pierre, je suis à Madrid. » Ah, je lui dis « Qu'est-ce que tu fais Pierre à Madrid ?»« Je suis avec des lapins. » « Ah bon, il est avec des lapins. Je tourne une publicité pour des piles très célèbres. »
Voilà. D'accord.
Et donc, je ne vous cite pas la marque, mais vous avez tout de suite reconnu. Et il était avec
celle
des lapins.
Celle qui avait fait tourner Bernard Tapie aussi, c'est ça.
Voilà.
Ah, les lapins roses, c'était des vrais lapins alors, dans cette pub. Ça, j'ignorais.
Et il était une dizaine de jours à Madrid avec ses deux lapins pour son tournage.
Allez, on continue de vous raconter des histoires d'animaux extraordinaires. Tiens, par exemple, quand un loup vous fonce dessus, Hélène Gâteau, vous l'avez vécu, cette scène. Vous allez nous raconter ce que ça fait. Restez avec nous sur RTL.
Curiosité, indiscrétion, révélation. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité, c'est jusqu'à 22h sur RTL. Tout à l'heure, on vous emmène sur la banquise pour explorer le permafrost. Mais d'abord, des histoires d'animaux avec notre invitée, la vétérinaire Hélène Gâteau, l'une des voix de RTL. On vous retrouve dans Week-end Matin avec l'ami Vincent Perrault. Hélène, alors on parlait des animaux stars de cinéma, notamment ceux du dresseur Pierre Cadéac que vous avez rencontré. Ce dresseur, il a notamment travaillé pour Ridley Scott, Gladiator, ou alors Un hussard sur le toit, c'est ça, le film de Jean-Paul Rapneau. Et alors, il dresse notamment des loups. Comment simule-t-il une attaque de loup ? Comment on fait pour dresser un loup, si j'ose dire ?
Il m'a bien surprise, parce qu'en fait, avant de me le faire tester, il l'a fait lui-même. C'est-à-dire qu'on est dans l'enclos des loups. Alors là, il me dit « Attention, Hélène, fais attention à toi, ne laisse pas traîner tes bras, tes mains.
» C'est déjà pas
voilà. Il m'a effectivement mise en condition. Mmh. Et ensuite, il avait caché dans une petite besace qu'il avait accrochée à sa ceinture des morceaux de viande. Et il a appelé une première fois un des loups avec une main coincée le long de son cou, contenant le morceau de viande. Et un des loups était tenu par un de ses assistants de l'autre côté de l'enclos. Et l'assistant a lâché le loup et le loup a couru vers lui en sachant qu'il y avait le morceau de viande qui était coincé dans sa main contre son cou. Et du coup, lui a sauté dessus et a plaqué Pierre Cadéac sur le sol pour pouvoir prendre le morceau de viande qui était dans le cou. Et dans ces cas-là, on avait l'impression qu'il était presque en train d'égorger, d'égorger Pierre, en fait. C'était assez formidable, cette scène.
Vous y avez cru ?
J'y ai cru, et surtout
vous avez cru que ça se passait pas bien.
J'ai cru que ça se passait pas bien, ouais. Parce que Pierre commençait en plus à rougir.
Il saignait, en fait, c'est ça ?
Voilà. Et puis, bon, en fait, il tout se passait bien. C'était vraiment que du cinéma. Ouais. Et il m'a fait faire la scène juste derrière.
Donc, vous, attendez, faut raconter ça. Donc, il s'appelle Pato, c'est ça, ce loup ?
Ouais.
Et donc, vous l'avez droit,
il est dans ma ligne
yeux,
de vision,
quoi, c'est ça,
voilà, ouais. C'est ça. Tenu donc par l'assistant, très énervé parce qu'il sait que j'ai ce morceau de barbac coincé dans la main, donc il commence à tirer sur la laisse. Là, je me dis, oh là là, je vais quand même prendre 50 kilos parce que c'est quand même des gros loups qui va être projeté sur moi. Et là, Pierre Cadéac me dit, mais tu sais, Laetitia Casta, elle l'a fait cette scène-là. Alors là, je me suis dit, bon,
pourquoi pas moi ?
Si Laetitia l'a fait, je vais le faire aussi. Et donc, le pato a été lâché. Et effectivement, il m'a sauté dessus. Il a mis ses pattes sur mes épaules. Il m'a fait tomber. Il m'a renversé. Et puis là, j'ai lâché assez rapidement le morceau de viande, quand même.
Mais comment on sait qu'il n'y a aucun risque ? Enfin, non, il y a forcément un risque, en fait.
Il y a toujours un risque. À partir du moment où ce sont des animaux sauvages, il y a toujours un risque. Pas sur ces scènes-là. Parce que c'est répété, répété, répété. Les risques qu'il peut y avoir, c'est plutôt quand on va manquer d'attention, quand on est auprès des loups et on fait moins attention à eux, ou on a un comportement qui diffère de ce qu'il peut y avoir d'habitude. Et dans ces cas-là, ou si les animaux sont surpris, à partir du moment où un animal est surpris, c'est dans ces cas-là qu'il peut se défendre.
Mais je suis quand même étonnée que Laetitia Casta l'ait fait. Les acteurs souvent ont des doublures pour ce genre de scène, pardon, un peu violente et à risque.
Oui, mais alors c'est tout le travail du dresseur aussi, c'est de favoriser la cohabitation entre les acteurs et les animaux. Il y a vraiment des acteurs qui n'aiment pas les animaux, hein. C'est pas le cas de Laetitia Casta, avec lesquels qui ont des phobies, et le dresseur dans ces cas-là, eh bien, ils vont passer du temps avec les animaux, avec les dresseurs, pour pouvoir se sentir mieux. Et puis souvent, eh bien, un esprit d'équipe va commencer à se mettre en place, et ils vont vouloir jouer les scènes, parce que c'est quand même assez extraordinaire aussi de tourner avec des animaux.
Hélène Gâteau, vous nous racontiez tout à l'heure les souvenirs que vous aviez avec votre Jack Russell, qui s'appelait Roots, c'est ça, si je me souviens bien. Pierre Cadéac, lui aussi, il a un Jack Russell, comment il l'a appelé ?
Il l'a appelé Gérard, c'est son prénom, et son nom de famille, c'est Depardieu. Donc c'est Gérard Depardieu.
Et qu'est-ce qu'il lui fait faire à Gérard Depardieu ?
Il fait tout faire. Gérard est formidable, c'est un acteur hors pair. Et il lui fait faire le mort, aboyer sur commande, danser. Il peut tout faire, ce chien. Il est vraiment extraordinaire. Et puis c'est là qu'on voit, on parlait des chiens en début d'émission, qu'on voit justement toute l'intelligence et à quel point les chiens sont là pour nous rendre heureux. Parce que Gérard, quand il fait des tours, bah, ce qu'il aime, c'est faire plaisir à Pierre, finalement.
Mais il y a du plaisir aussi pour les animaux qui comme ça, font le clown pour nous, les humains.
Bien sûr, parce qu'ils voient le plaisir qu'ils nous donnent, et à partir du moment où on leur fait pas faire des choses qui sont avilissantes ou qui sont désagréables pour eux, ça se passe toujours bien. Il y a toujours une caresse derrière, une récompense alimentaire, donc c'est que du plaisir. Et puis surtout, c'est une complicité entre le maître et le chien. Et qu'est-ce que le chien recherche de plus ? La complicité avec son maître.
Mais est-ce que c'est plus facile, moi j'aurais tendance à répondre oui, de dresser un chien pour un rôle au cinéma qu'un loup ou un cerf ?
Alors, figurez-vous que Pierre m'a appris que c'était plus difficile. Parce que les loups ou les cerfs, on va leur demander de répéter des comportements naturels qu'ils vont avoir. Oui. Tandis que les chiens, on va leur demander des choses un petit peu étonnantes, et surtout, on va leur demander de simuler des émotions. Par exemple, faire la fête. Faire la fête, Gérard Depardieu, il fait la fête à son maître, à Pierre. Mais Hugues, Thomas, il va pas forcément vous faire... Je vous appelle Hugues maintenant.
C'est pas grave, j'ai l'habitude, depuis la maternelle, on me fait le coup. Donc...
Oh, excusez-moi.
Il n'y a pas idée d'avoir deux.
Non, mais ça me rajeunit, donc c'est super.
Vous pouviez pas avoir un nom de famille ?
Comme vous, pouvez m'appeler Gâteau. C'est
oui,
mais
je suis non bonnet, je vais l'appeler la trapu, c'est ce que veut dire son nom. Hein, je le rappelle régulièrement quand elle est désagréable.
C'est ça, les Bretons. Des gens solides.
C'est vrai, Gérard, solide. Le chien, alors... Gérard Depardieu, il va pas forcément, Thomas, vous faire la fête s'il ne vous connaît pas.
Bien sûr.
Et puis, si vous jouez un rôle avec ce chien, eh bien, on va lui demander de faire la fête, on va lui demander de faire pipi sur commande. Donc, c'est extrêmement compliqué ce qu'on peut demander aux chiens, souvent.
Merci beaucoup, Hélène Gâteau.
Merci à
c'était,
vous.
C'était passionnant. Votre livre Des hommes et des animaux est publié aux éditions Carnet Nord. Et puis donc, on vous retrouve ce week-end avec Vincent.
Avec Vincent,
Perrault.
Vers 6h45. Oui.
Et ben, on sera là.
Merci beaucoup, Hélène.
C'est tout.
Merci.
Peut-être qu'on vous réécoutera en podcast.
Oh, c'est pas
bien. Solidarité d'équipe. Hein,
ah, je me venge. Hein, sur les souvenirs
moi,
de mon prénom.
Vous écoutez RTL.